Non, pas là. Là non plus. T'as perdu. Houha. C'est la combine nanar. Être partout et être nulle part. Politique, business et foot. Nanar est tellement partout. Qui peut se planter nulle part. Jamais tricard, non jamais tocard. C'est la combine nanar. T'apporter un Richard. Vendre, acheter, revendre, acheter. Avec rien dans les gobelets. C'est ça les billes à nanar. Elles sont partout, elles sont nulle part.
Bonsoir chers amis et bienvenue dans votre podcast sport Culture Sport Club, épisode 7. Toujours très bien accompagné avec mon ami Seb. Salut Seb.
Salut.
Il est de très bonne humeur Sébastien en ce moment.
Il est fatigué surtout.
Il est fatigué, tu as regardé le Super Bowl.
C'est ça.
C'est vrai.
Donc du coup pas beaucoup de dos.
Comment ça s'est passé d'ailleurs?
Eh bien il y a eu un match.
C'est Kansas City qui a gagné.
Kansas City de 3 points, ouais, face aux Philadelphia Eagles.
38 à 35, c'est pas ça?
C'est cela même.
Oh là, t'as vu,
à
je suis
10 secondes de la
pointe
fin.
De l'info là. Et bien
sympa, ouais, long comme d'habitude.
Et le show. Alors
ouais,
le seul truc qu'on a retenu, c'est que Rihanna était enceinte.
Ouais, bien, mais c'est pas le meilleur que j'ai vu, mais bon.
C'est l'info du soir. Rihanna voilà. Est enceinte.
Et oui. Deuxième enfant.
J'y suis pour rien. Deuxième enfant.
Deuxième.
Ah, c'est le deuxième. Ouais, quel âge a le deuxième. Premier.
J'en ai pas la moindre idée.
Je crois qu'on s'en fout un peu.
Exactement.
Mais bon, Rihanna, si tu veux venir au podcast, t'es la bienvenue, bien évidemment, pour nous faire une petite interstice musicale. Il y a pas de problème.
Elle a fait quelques tours dans pas mal de stades là. Elle a profité un petit peu à droite à gauche d'aller voir au Parc des Princes, on s'en fout un peu, mais
raison, à droite à gauche au stade Marcel Sauvacane d'Oraison, on l'invite. Voilà, si elle veut faire un show,
l'invitation est passée.
Il n'y a pas de problème.
La sécurité est réunie pour la recevoir, je pense. Donc.
Voilà, bon, ben maintenant l'info est lancée. En tout cas, merci chers amis de votre assiduité, de vos retours. Le podcast dernier qui était avec Axel et Mathieu a très bien marché. Je crois qu'ils étaient ravis de leur venue. Ils sont sortis vivants. Je dis ça pour le prochain invité que je garde mystérieux pour l'instant. Donc, il sait qu'il va s'en sortir vivant.
Pas forcément, je ne sais pas encore.
Pensez que vous pouvez écouter ce podcast, mais je le dirai en fin de podcast comme d'habitude, sur toutes les plateformes connues, Spotify, Deezer, Apple Podcast, sur Audible. Enfin, on est un peu de partout sur Culture Sport Club. C'est bien, j'ai pas réussi à faire la bafouille, je me remercie moi-même.
T'as pas réussi,
ouais. Bravo Raph.
Plus ou moins, ouais.
Félicitations.
Vous avez entendu cette voix grave, suave. Je suis très heureux d'accueillir notre invité qui nous vient de loin, de derrière la Durance. Cher invité, je commence toujours ce podcast par ces trois questions. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et que fais-tu, cher invité, dans la vie?
Eh ben, salut Raph, moi c'est Johan. 33 ans cette année, marié, papa de 2 enfants. Je travaille au CEA Cadarache et à côté, je suis bénévole au club de foot de Dauphin.
L'AS Dauphin,
de
l'association
Dauphin.
Sportive dauphinoise.
C'est ça.
Représentée par un rhinocéros ou un éléphant?
Et par un rhinocéros.
C'est un rhinocéros, t'es sûr hein?
Non.
Non, c'est un éléphant.
Je crois que c'est un éléphant.
C'est un éléphant. C'est,
ouais, un éléphant à cornes. Attention, c'est très rare. Il y a
c'est un éléphant et je crois que historiquement ça date de à peu près le Moyen-Âge. Et en fait, c'est parce que Dauphin est Saint-Même et Saint-Même a le rhinocéros.
D'accord.
Et c'était des communes qui étaient très puissantes à cette époque-là. Et donc, du coup, ils ont choisi de prendre des animaux puissants, d'où le rhinocéros. Je le dis sans conviction, mais il me semble que ça vient de là.
D'accord.
Je ne suis pas natif de la région.
Concrètement, c'est qui le plus fort, le lion ou le rhinocéros?
Le lion, parce que je suis du signe astrologique.
Tu as la référence quand même, Rafi.
Big up, je suis aussi un lion, magnifique.
Personne n'est parfait. Mais tu as la référence quand même de cette question.
De quoi?
C'est qui le plus fort entre le lion et le rhinocéros?
Ah, ça me parle, c'est quoi?
Eh oui, c'est un film quand même.
Oui, c'est quoi?
La Cité de la Peur.
Ah oui.
Oh, c'est vrai. Un Shabbat.
C'est vrai. Ouais, donc, tu nous as dit qui tu étais.
Yes.
Tu nous as dit ce que tu faisais. Mmh. Et alors, d'où viens-tu? Ça, tu nous l'as dit aussi. Alors, tu es de Dauphin?
Alors, j'habite Saint-Même, le village qui est de l'autre côté de la route. Originaire, non, je suis originaire de Mérargues, dans les Bouches-du-Rhône. Et puis, j'ai un peu gravité dans ce département des Bouches-du-Rhône pendant très longtemps, avec mon père sur Vitrolles, Marseille. Ça va faire maintenant 18 ans maintenant, ça fait mal que je suis arrivé dans le 04.
D'accord. Alors, je commence aussi par cette question, après les trois premières introductrices. C'est quoi ton rapport au sport, Johan?
Le sport, j'en ai...
Comment tu perçois le sport?
Comment je le perçois ?
Voilà, plutôt, je vais être précis là-dessus. Le rapport au sport, c'est ta perception du sport. C'est quoi le sport pour toi ?
Moyen d'évacuer, de se faire du bien, et de penser à autre chose que la vie de tous les jours.
Ça a une place importante dans ta vie ?
Ouais, quand même beaucoup, parce que j'en ai toujours eu fait. Étant petit, j'ai toujours eu le football, mais j'ai toujours eu une activité sportive à côté du football. Je suis un peu un touche-à-tout, j'ai fait du tennis, j'ai fait de l'escalade, de l'équitation, de la natation, mais toujours le foot en activité principale.
Alors tu nous l'as dit là succinctement, alors tu me coupes si tu as envie de poser des questions.
Je t'écoute pour l'instant.
Ton parcours dans le détail, dans le sport, c'est quoi ? Alors que ça soit dans la pratique, mais aussi dans l'éducatif, parce que c'est... Alors, je vais le dire tout de suite. Comment j'ai rencontré, moi, Johan, et ce qui a fait que je l'invite dans le CSC. Je te remercie encore d'avoir accepté cette invitation-là.
Merci à toi.
Moi, je m'occupe, je l'ai dit dans d'autres podcasts, d'une petite catégorie, U8-U9 sur Horizon. Et on s'est aperçu en discutant qu'on a même failli presque jouer ensemble.
C'est vrai.
Dans le club du football club de la Brianne, le FCB représente. Ça sera toujours mon club de cœur. Je suis désolé Horizon Sport, mais je suis obligé de le dire. C'était le club rival malgré tout. Mais bon, voilà, maintenant c'est comme si j'étais un peu au PSG, mais bon, c'est pas grave. Et en se rencontrant sur des plateaux, en discutant, en voyant comment on agissait avec nos gamins, je pense qu'il y a un rapprochement naturel qui s'est fait. Et on s'est...
Sportif, hein.
Oui, tout à fait.
On rentre pas là-dedans. C'est...
On parle pas de ce qui s'est passé à Maligier. Non, on n'en parle pas. Non, je rigole. Mais on a vu qu'on avait à peu près la même façon de voir le foot, l'éducation dans le foot. Mmh. Et ça m'est venu assez rapidement quand j'ai fait le podcast. Je me suis dit, tiens, pour moi, Johan, il est totalement CSC compatible. Donc, c'est l'abréviation du podcast. Hein. Alors, parce que Johan, j'ai appris qu'il n'était pas du tout réseaux sociaux ou et autre.
J'ai du mal.
Et en même temps, tu habites à Saint-Même. Hein.
Attends, j'ai la fibre.
Pardon, excuse-nous.
Elle n'est pas connectée, mais elle est là.
Mais elle, ouais. Elle va arriver. Elle n'est pas loin, on la voit qui traîne. Mais voilà, en tout cas, merci. Voilà, c'est ce qui a fait que je l'ai invité. Et puis, voilà,
on
merci
encore. On a réussi à la programmer.
Bah ouais, on a réussi à la programmer. Et d'ailleurs, je lance une invitation à ton président.
Je lui transmettrai.
Qui est un personnage assez atypique, je pense, dans le monde du football.
Complètement. Et dans le monde en général, pas que du football.
Voilà, et je pense que... Voilà, c'est une personnalité que j'aimerais beaucoup inviter aussi dans le CSC. Donc, ton parcours en détail dans le monde du sport.
Donc, de petit à aujourd'hui.
Ouais, que ça soit dans l'éducatif ou dans la pratique.
Bah écoute, dans la pratique, j'ai commencé, c'était à l'époque les Poussins, donc au football club à Mérargues, parce que j'ai grandi donc là-bas. J'ai fait tout mon football là-bas. Avec des activités comme je te le disais donc sportives parce que je suis un peu touche à tout et j'avais envie de découvrir autre chose, j'ai fait du karaté, j'ai fait plein d'autres choses, mais toujours le foot, toujours le foot. Il est arrivé un moment où le sport est quand même devenu assez important parce que quand j'étais petit j'avais envie de devenir pompier professionnel, donc j'ai commencé les jeunes sapeurs-pompiers à l'âge de 13 ans. Donc, beaucoup de sport aussi. Donc, mine de rien, même si ça restait du plaisir, il fallait être sportif, avoir une certaine condition. J'ai fait un peu de pompier volontaire pendant 10 ans donc à Vitrolles. Donc, du sport, toutes les gardes, tout ça. Donc, le sport a toujours eu une place importante. Après, quand je suis arrivé donc, dans le 04 à Fort-Calquier, sans être jamais vraiment parti du 13, en fait, j'ai... plus l'occasion de faire de sport en club, d'où il me semble ce passage où je te dis où on a dû se rencontrer joueur-entraîneur parce que par le biais de connaissances qu'on a en commun, j'ai fait quelques matchs à la Brianne, mais après comme tout joueur qui aurait pu devenir professionnel, je me suis fait le genou.
Les ligaments croisés.
Après j'ai abandonné et j'ai plus pratiqué de sport parce que l'appréhension de se faire mal.
D'accord.
Donc après j'ai eu mon premier fils Ruben qui j'ai mis au foot, pas parce que c'était une envie à moi de le mettre au foot, parce qu'il est hors de question de les forcer à faire ils feront mes enfants ce qu'ils ont envie de faire en termes de sport, mais je pense aussi parce qu'on est dans des petites communes, il n'y a pas beaucoup d'associations autour. Il a commencé à faire comme moi, il a commencé le foot, il a fait un an de judo en plus du foot, mais le foot je vois que ça le branche bien aussi. Donc j'ai commencé à l'emmener au club de l'autre côté de la route, à Dauphin, à me renseigner auprès de André Di Mercurio, qui était donc le président à l'époque et qui s'occupait du baby-foot. Et j'ai totalement accroché, mais vraiment beaucoup, parce que on est sur du baby-foot, il n'y a pas de compétition, on est sur j'apprends à marcher, j'apprends à courir, j'apprends à la vie avec les autres. Donc j'ai complètement adhéré. J'ai un régime de travail un peu particulier qui fait que j'étais présent tous les mercredis. Et André, me voyant tous les mercredis assis sur ce petit muret, en fait, m'a mis le pied à l'étrier de temps en temps en disant de manière très subtile. Fort aujourd'hui, je le reconnais, avec du recul, mais très subtil. J'ai beaucoup de petits aujourd'hui, j'ai mis en place des exercices, tu veux me donner un coup de main ? Allez, volontiers. Puis une fois, deux fois, et puis après, j'ai des papiers à faire, donc je t'ai tout préparé. Et puis une chose, une autre, en fait, je me suis totalement pris au jeu, parce que c'était une partie du sport que je ne connaissais pas, qui m'a donné envie de connaître. Donc je me suis occupé du baby-foot pendant 2 ans, en suivant mon fils. Ensuite, la catégorie 6-7, là tout seul par contre, il n'y avait plus André, parce qu'André continue à s'occuper du baby-foot. Et vu que je suis quand même quelqu'un qui aime bien faire les choses, j'ai demandé à passer mes premiers modules sportifs, parce que je me suis aperçu que malgré que ce soit des enfants, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et finalement, les enfants, même si c'est le sien, tu le connais, mais tu ne sais pas réellement ce que tu peux lui faire faire au niveau du sport. Donc il m'a semblé important de suivre cette pratique-là en suivant les modules proposés par la 3F. Donc j'ai passé mon module U7, parce que je m'occupais des U7.
Fédération Française de Football.
Oui, pardon.
Pour les auditeurs non initiés,
bien évidemment.
Et donc mon module U7, je savais que j'allais continuer dans cette voie, donc j'ai passé mon module U9 et mon module U10. U11, j'en suis pas encore au stade de l'assertif, mais j'y pense fortement. Et dans l'idée de toujours avoir le module nécessaire par rapport à la catégorie que tu encadres.
Alors, pour les non-initiés, parce qu'on a une écoute omnisportive, donc U8, U9, U6, U7 sont des gamins. Alors U6, U7 par exemple sont des gamins 5-6 ans. Qu'on reçoit, et il y a toujours un an d'écart entre les catégories qu'on vous annonce. En fait. Tout à fait, voilà, pour l'information.
Tout
et quand
fait.
Tu dis que tu passes des modules, ce sont des sortes de formations.
Exactement.
Pour savoir comment appréhender un entraînement, qu'est-ce qu'on peut travailler.
Ce que les enfants attendent de toi, ce que la fédération attend de toi,
oui.
Aussi qu'en tant qu'éducateur, mine de rien.
Oula, oui, on a... C'est... je crois que la fédération, malgré ça peut être surprenant ce que je vais dire, mais oui, elle a une politique sportive qui est en place, qui n'est pas forcément toujours très claire au travers de son ex-président, mais futur ex-président, mais il y en a quand même une, d'accord ? Il était porté plus sur les féminines ces derniers temps, ce président-là. Enfin bref, donc voilà, et quand tu dis que tu passes assertif, c'est quoi ?
Les modules, hormis le module U7, comme tous les entraîneurs, les coachs professionnels ont des modules, des diplômes à passer pour pouvoir entraîner. Alors nous aujourd'hui, dans les Alpes de Haute-Provence, petit département de football, on n'en a pas l'obligation, hormis sur certaines catégories et sur certains niveaux. Mais normalement, et dans certains départements qui sont beaucoup plus développés en termes de football, ces modules sont obligatoires pour pouvoir exercer la fonction d'éducateur. Et la certification, c'est presque un défi que j'ai envie de me faire, parce que les premiers modules que j'ai passés, les gens de la Fédé te disent on a énormément de gens qui viennent les passer, mais croyez pas que c'est un examen qu'on donne, justement. Et sur l'ensemble qu'on était, on devait être une dizaine. Ils ont dit qu'il y en aurait peut-être 5 qui passeraient l'assertif et 2 qui l'auraient. Donc, c'est mon petit côté défi qui me dit il va falloir que tu le passes.
C'est, alors, ça, c'est intéressant. C'est un état d'esprit qui t'anime, ça. C'est-à-dire la difficulté, le fait de te dire...
Le challenge ?
Ouais, ou quand quelqu'un te dit « Normalement, tu ne vas pas y arriver.
» Non, c'est... Ça, c'est le côté pompier, je pense.
C'est le côté pompier ?
Ouais, j'en ai fait, je suis pompier volontaire pendant 10 ans, j'ai fait les jeunes sapeurs-pompiers à l'âge de 13 ans. Mes mercredis, je l'ai passé en caserne à apprendre le métier en fait, donc je n'allais pas forcément au foot, je savais déjà ce que je voulais faire. Donc je pense que c'est des métiers qui te forgent un caractère et qui te qui t'apprennent à ne pas baisser les bras, quoi.
Ouais, à te dépasser.
Donc, puis ouais, c'est mon défi. Ouais, j'ai commencé donc par, je dis, par le baby food, j'ai passé ces modules. Cette année, j'ai pris pour la première fois, donc je suis rentré au bureau de Dauphin. J'ai pris la responsabilité de tout le football éducatif du club, donc des petites 6 ans jusqu'au 13. Ça permet aussi de voir une autre facette, le côté administratif, tout ce qu'on te demande, le temps que ça prend, le début de saison, le milieu de saison, la fin de saison, les préparations de tournois, comment faire vivre un club. Parce que finalement, ce n'est pas que des enfants que tu fais taper dans un ballon, c'est que derrière, il y a toute une structure qui a organisé au niveau finance, au niveau parents, parce que les parents sont super importants dans le monde du football éducatif aujourd'hui, qui te permet de voir une autre facette. Tu es toujours dans le sport, tu le fais d'une certaine manière, mais tu prends toujours du plaisir. One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right here, where I'm gonna stay.
A parlé, on a parlé de l'AS Dauphin.
Ouais.
Tu nous parles rapidement de ce club, le village, ce qu'il représente en termes d'habitants, ce que tu as comme licencié, diffusion dans certaines catégories ou pas. Voilà, tu nous en parles un petit peu.
Ouais, tout à fait. Bon, ben, très petite commune, c'est des communes qui sont pas forcément très très jeunes non plus. Il y a très peu d'associations.
On parle quoi, 1000 habitants, même pas?
Je serais incapable de te dire, ouais. C'est très petit. Les 1000, on doit les avoir. Bon, je pense qu'on va avoir le renseignement sous peu, mais...
on a la source, notre Bible, là, qui est en train de travailler, on va lui laisser du temps. Mais oui...
Petite commune.
Tu as combien licencié, tu le sais?
190 en tout.
En comptant les seniors?
En comptant les seniors.
Seniors qui sont les grands, enfin les adultes, tout simplement.
Les adultes.
Da-da-da-dam. Alors les environ 800 habitants, voilà. Dauphin. Tu peux compter ça même à côté, puisque c'est deux trucs à côté.
Ouais, c'est...
Tu vas peut-être monter à 1500.
Ouais. Donc,
800, ouais, ça te fait quasiment, t'as presque 20 à 30% de la population.
Forcément de la population.
Voilà, ce que je veux dire, représentatif de ta population, enfin, en pourcentage de représentation en densité, je veux dire. Mais pas forcément, parce que tu n'as pas forcément des personnes âgées qui sont
justement.
Mais t'as diverses communes qui viennent se rallier à toi.
Exactement.
Surtout, ce qui est une chose bien, puisque Dauphin est situé, on va dire, entre des villes un peu plus grosses. Donc, tu as Forcalquier qui n'est pas très loin, qui va souvent attirer justement ces minots ou ces licenciés. Un peu plus bas, tu as Villeneuve. Donc, même chose. Et
exactement.
Si vous arrivez à attirer des minots, c'est que c'est pas mal.
En fait, on a monté des projets pour justement avoir une autre structure. Ce que j'appelle structure, c'est le stade. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on a un club aujourd'hui qui grandit en nombre de licenciés. Donc, la pelouse, elle n'aime pas trop ça. Donc, on a monté plein de projets par des gens du bureau actuel, d'autres qui ont un peu laissé ça de côté, mais qui ont énormément participé sur le montage des projets. C'est hyper compliqué parce que c'est un budget pour les communes et les sous, on ne les sort pas tous, même s'il y a énormément d'aide. Et en fait, quand les collègues ont monté le projet de comment faire pour avoir une nouvelle structure, ils m'ont présenté le bassin d'attractivité du club. Et en fait, je m'aperçois que pour un petit village exactement, où comme tu dis, il y a beaucoup d'autres grosses structures qui sont autour, ben je m'aperçois que même moi, dans ma catégorie, j'ai des petits qui sont de chez toi, qui sont d'Oraison, j'ai des petits qui arrivent de Bannon, de Saint-Michel, de Riane, des enfants de partout en fait. Il y en a quand même pas mal de Saint-Même, Dauphin et de Forcalquier, mais ouais, un gros bassin d'attractif. Ouais.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas le territoire, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, Forcalquier, ils sont à 5-6 000 habitants. Villeneuve, je fais vraiment la louche. On est sur du 3-4 000 habitants, pas plus. Et Oraison, qui est devenue la troisième, quatrième ville du département.
6, non 6 000
6 ou 7, ouais.
Ouais, quand même.
6 ou 7, ouais. Mais il y a 20 ans, Oraison, c'était en dessous Fort-Calquier. C'était 4 000 habitants. Donc il y a eu une grosse progression en termes de population. Mais c'est vrai que moi, c'est pareil. Sur la commune d'Oraison, enfin, du moins sur le club d'Oraison Sport, j'ai pas forcément que des gamins d'Oraison aussi. J'ai des mets. J'ai un peu de Forcal. Bon, la Brianne, forcément, mais là, c'est un peu plus logique qu'ils viennent vers nous. Mais j'ai pas tous mes gamins qui sont de la commune. Pardon.
Ouais.
Et donc, tu nous as parlé de ton club. Mmh. C'est quoi pour toi, après on va parler de ta casquette de dirigeant bureau.
Ouais.
Ça, je pense que ça peut être intéressant que tu nous en parles un petit peu. Mais là, on va plutôt poser sur ta tête la casquette de l'éducateur.
Okay.
C'est quoi ta philosophie en tant qu'éducateur? Qu'est-ce que tu prônes comme valeur à transmettre à tes gamins?
Respect, plaisir.
Ouais.
C'est les premières.
Tu peux les détailler dans ce que tu vois, parce que ça peut être un peu vaste.
Le respect, parce que ben, tu n'en as pas besoin que pour le sport, tu en as besoin pour ta vie de tous les jours. Donc je pense que c'est une autre manière de l'inculquer. Le plaisir, parce qu'ils sont avant tout là pour se faire plaisir. Je refuse totalement de faire jouer un enfant parce que c'est papa ou maman qui veulent absolument qu'il fasse faire du football. Interdit. Du football ou un autre sport. Hein. Moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mon gamin, il fait du foot parce qu'il a envie de faire du foot. Mais il a voulu essayer le judo, il a fait du judo. Même si moi je suis un fervent fan de football, même mes enfants, tu vois, mon deuxième, il a commencé en. Ça fait 2 ans qu'il fait du baby foot. Là, il attaque avec la catégorie U6, pas avec moi. Je vois qu'il a moins d'envie que son grand frère, mais ça lui plaît. Donc, du moment que ça lui plaît, je le laisserai faire. Mais s'il n'y a pas ce côté plaisir, aucun intérêt. Il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a rien. Et chez un enfant, c'est très, très, très important.
Respect, plaisir. Effectivement, et puis ça va être un sujet qu'on va aborder après. Réussir à ce que le gamin prenne du plaisir à faire ce qu'il fait et l'amener à pérenniser sa pratique avec toi aussi. Et tu parles de respect, le respect de soi, le respect de l'autre. Je pense que c'est
le respect du matériel, le respect dans son ensemble.
Ouais. Quelle difficulté tu rencontres quand tu mets la casquette éducateur? Les difficultés les plus courantes que tu vois?
Écoute, ça va faire donc maintenant 6 ans, quelque chose comme ça, que je suis là-dedans.
Alors lâche-toi. Hein.
Ouais. Non, je vais tout dire.
Assieds-toi tranquillement, tu peux tout me dire.
Je pense que, et ça on en voit beaucoup parler en ce moment à la télé, qu'il y a beaucoup de clubs qui sont embêtés parce qu'il y a des problèmes de violence ou autres hors du terrain, qui sont souvent commises par les parents. Ou par les spectateurs. Je touche du bois et j'ai une chance incroyable et je les remercie chaque année à chaque assemblée générale ou dès que j'en ai l'occasion. Et je pense aussi que c'est pour ça que ça marche bien à Dauphin. J'ai un super groupe de parents depuis le départ. Des petits que j'ai eu en baby-foot, mais aussi des parents qui sont là et qui prennent le train en route parce que leurs enfants font leur première. J'ai l'habitude de faire des périodes d'essai pour les gamins pour voir si ça leur plaît avant d'enchaîner sur les licences. Et une fois que ça s'est lancé, je fais toujours la petite réunion parents-prof avec les parents avant le début de saison où je leur demande mes attentes et j'attends aussi des questions s'ils en ont à me poser, savoir qu'est-ce qu'ils ont comme attente pour moi. Leur faire comprendre que...
Alors quelles sont tes attentes justement? Qu'est-ce que tu leur exposes?
Moi d'un parent, je veux qu'il soit un parent. C'est-à-dire que quand tu es de l'autre côté de la pelouse, le parent qui est complètement hystérique alors qu'on est le dernier département de France en nombre de licenciés, en termes de niveau ou en tout ce que tu peux voir, en pensant que son enfant, mais ça je pense que c'est général, hein, et le prochain Kylian Mbappé ou Cristiano Ronaldo, Léo Messi ou ce que tu veux, déjà desservent totalement leurs enfants, ne prennent pas de plaisir et tous les problèmes que tu peux avoir, il n'y a pas que ça, mais ça part du bord du terrain. Donc moi, je leur dis clairement ce que j'attends d'eux, donc c'est-à-dire leur rôle de parent. Que... Alors ça, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais avec le temps, ils comprennent. Leur faire comprendre que leurs enfants, pendant qu'ils me les confient, c'est pas une garderie, c'est une école du foot, comme à l'école scolaire. Hein, mais que pendant ce temps-là, c'est plus leurs enfants, c'est les miens. Ils en sont sous ma responsabilité, mais qu'aussi, moi, je vais les modeler à comment je pense qu'il faut que les enfants soient modelés dans le foot éducatif. C'est pour ça que je veux pas d'interférence extérieure. Et je conclue toujours mes fins de réunion en disant que si ça ne me convient pas, ils auront le droit à un avertissement verbal, les parents hein, bien sûr, hein, pas les enfants, hein, mais que si je vois que c'est incompatible déjà avec la vision du club et avec ma vision, ben malheureusement, ce sera l'enfant qui en pâtira parce que ben, peut-être que les week-ends de compétition, il ne sera tout simplement pas convoqué à cause de son papa ou à cause de sa maman.
Et comment c'est perçu ?
Ben écoute, plutôt bien parce qu'il y a toujours tout le monde qui est resté, j'ai jamais exclu personne.
Ouais.
Et que j'ai toujours les comportements que je demande. Une fois, j'ai même une grand-mère qui m'a dit « Excusez-moi, j'ai applaudi mon petit-fils. » J'ai dit « Non, mais justement, ça, vous pouvez. » ça vous pouvez.
Excusez-moi, j'ai éternué un moment pendant le match.
Ça, vous pouvez.
Ouais, mais ça, une fois, c'est arrivé sur le bord du terrain. Il y en a un qui a éternué un peu trop fort et j'ai vu Yohan qui l'a regardé qui a fait « Une fois. » Il a dit vraiment « Une fois. »
Hop, il a arrêté le match, petit carton jaune.
Non, non, ça, c'est… Voilà. Et je touche du bois et j'ai jamais eu quoi que ce soit à dire. J'ai vraiment un groupe de parents exceptionnel. Tu vois, des petites attentions. Donc, un tournoi hors département, ils savaient que je sortais du boulot, parce que je bosse aussi les nuits. Vu qu'ils savaient que je sortais, ils m'avaient préparé entre midi et deux le petit transat. Il était venu avec le matelas pour que je puisse dormir entre midi et deux, alors que j'avais pas dormi de la nuit vu que je sortais du boulot. Un papa, il avait pris les boules. Un autre, il avait pris les jeux de cirque pour pouvoir occuper les gamins entre midi et deux. Ils font partie du staff, quoi, les parents. Mmh. Et quant à ça, tu démènes. Tu montes des projets de sportifs. Tu vas leur trouver des tournois à l'autre bout du département, hors département. Parce que tu vois en plus que ça fait plaisir aux parents aussi. C'est, la priorité, c'est les enfants. Mais quand tu as toute une famille qui suit et qui vient de voir le week-end, c'est fantastique.
Alors, je trouve ça intéressant parce qu'on est parti de quelles difficultés tu rencontres. Au final,
ça a été très positif. Ça a été
très exactement positif. Mais donc, tu as parlé, pour nous recentrer, tu as parlé de… Alors, c'est bien parce que j'allais te poser la question à la relation avec les parents. Mmh. Donc, visiblement, elle est exceptionnelle et tant mieux. J'ai envie de te dire parce que des fois, on en voit sur le bord du terrain, c'est pas du tout la même appréhension des choses. Mais non, les difficultés que toi, tu rencontres quand tu as la casquette éducateur, tu vois des faits de violence sur le terrain, en dehors du terrain ?
Compliqué la question. Je vois presque même où tu veux en venir.
J'ai tendu un petit entonnoir.
Alors, je vais partir sur une contre-réponse.
Alors, sans parler, on va être très clair, on ne va pas parler forcément quel club ou autre. On n'est pas là pour ça. On est parlé de faits que l'on constate, nous, en tant qu'observateur, qu'est-ce qu'on rencontre comme difficulté quand on s'occupe d'une catégorie d'enfants ? On peut rencontrer celle des parents.
C'est réglé.
Mais on en a soucis. Pour toi, ça va, mais qu'est-ce que tu rencontres ?
Au sein de mon effectif ou…
De manière générale. Dans ta pratique d'éducateur, que ça soit aux entraînements ou pas, parce que…
On va commencer par les entraînements, du coup, parce que c'est ça qui me vient. On en parlait tout à l'heure en off.
Ouais.
Moi, mon plus gros problème que j'ai cette saison, et parce que je pense que c'est ça aussi, être un bon éducateur. Je ne dis pas que je le suis, j'ai toujours à apprendre. Mais je pense que se remettre en question, ça fait déjà partie, ça fait partie du taf.
Ouais.
Et en ce moment, je me remets pas mal en question parce que j'ai ma plus grosse difficulté, c'est l'écart de niveau que j'ai avec mes petits, que j'ai depuis le baby-foot, qui malgré leurs 9 ans, ont commencé le foot à 3 ans, 4 ans pour certains. C'est énorme la différence d'âge en motricité, en réflexion, en analyse, en compréhension de jeu. Et ceux qui commencent le foot, qui ont le même âge qu'eux, qui sont des copains d'école, donc qui se connaissent, mais tu vois qu'ils commencent, donc il y a tout un apprentissage à faire. L'écart de niveau cette année, il est tellement important que des fois, j'en suis à me dire comment je fais pour faire un bon entraînement. Alors, heureusement, et ça c'est aussi un confort, malgré qu'on en manque énormément, et du coup ça va faire une deuxième question je pense, le manque de bénévoles dans les structures associatives. Moi, j'ai la chance, depuis que je m'y mets, d'avoir réussi à faire comme avait fait André avec moi, d'avoir chopé un papa qui, depuis, me suit, puis un autre papa qui, depuis, ne me suit plus parce qu'il entraîne une catégorie dessus, parce qu'on était en manque d'éducateurs de ce côté-là. Et il a eu le courage d'y aller tout seul en surclassant son fils, parce que le but, c'était de voir aussi son fils. Hein. Je fais un dédicace à Chris, même s'il est supporter du PSG.
Ah, ils ne sont pas tolérés, non.
qui est parti tout seul là-dessus. Et on a toujours été au minimum 2, voire 3. Et ça, c'est confort. Mais malgré qu'on soit 3 aujourd'hui dans ma catégorie pour un effectif de 22 gamins, j'ai du mal. J'ai du mal avec cet écart de niveau parce que je ne veux pas pénaliser mon équipe confirmée, donc les petits que j'ai depuis le début, mais je ne veux pas pénaliser ceux qui commencent aussi parce qu'ils sont tout à fait en droit d'apprendre le foot.
Il faut qu'ils apprennent. Hein.
Sauf que, alors c'est peut-être mon côté un peu pas impatient, parce qu'avec les enfants, faut pas être impatient, mais j'aimerais que ça progresse plus vite. Parce que même si je vois qu'ils s'amusent le samedi ou quand on fait des compétitions, ça me fait mal au cœur de les voir sur 5 matchs contre d'autres équipes mettre qu'un but et s'en prendre des valises, quoi. Donc pour ce côté-là, moi j'aimerais les faire progresser plus vite. Ils progressent à leur rythme, c'est le plus important. Mais j'arrive pas à les faire progresser comme je veux.
Alors oui, alors en résumé, l'idée c'est, alors j'ai un peu la même problématique, c'est d'arriver. On a des jeunes enfants qui arrivent en tant que licenciés, qui sont dans l'apprentissage du foot et qui, comparé à, sur certaines catégories, vont rencontrer des enfants qui ont déjà 2, voire 3, voire 4 ans de pratique.
C'est énorme.
Et c'est vrai que l'idée, c'est de ne pas dégoûter l'enfant qui apprend de ce sport-là. Donc, on parlait tout à l'heure de, quelque part, pérenniser la pratique sportive, dans son, voire même de fidéliser le gamin et du moins lui donner le plaisir de jouer au foot. C'est vrai qu'il y a « comment j'appréhende la défaite ?» quand elle est répétitive, quand elle est lourde, et quand je suis enfant, donc je suis face à ces difficultés de défaite. Alors surtout que, alors ça reste simple, mais il y a une forme d'émulation autour du stade pendant les plateaux. Quand il y a un but, forcément, il y a des parents qui supportent, mais qui sainement, hein, attention, hein, je parle pas d'effet de violence, mais du coup, quand c'est contre soi, le gamin qui a 7-8 ans, voilà, il va le prendre, il y a des gros cris, c'est, quand il marque, il y a un gros cri. Et voilà, quand il y a 5-6 heures, ça rigole. Et voilà, ça va être un peu... Voilà, c'est la difficulté de ça, de gérer. Des fois, il y a des parents, on peut le dire, il y a des parents qui ont du mal à accepter que des fois, moi, j'ai accepté totalement pour 3-4 gamins de ne pas les mettre de suite sur des plateaux, pour ne pas les mettre de suite en difficulté, pour venir petit à petit. Et là, voilà, j'ai attendu 3-4 mois et maintenant, ça va beaucoup mieux. Alors, forcément, il y a toujours un petit écart qui fait qu'ils ne sont pas dans la victoire, mais ça accroche. Voilà, ça accroche et ça reste, voilà, comme tu dis, du loisir. Et c'est plus, parce qu'on a des gamins quand même, il faut savoir, alors ça je pense que c'est dans tous les sports, bah, ils pendant qu'il y a le match de foot, ils ramassent la feuille par terre, ou ils se grattent le crampon en dessous, oh, j'ai de la terre, je me gratte un peu le crampon.
Quand est-ce que c'est fini?
D'un coup, voilà, ils voient son grand-père de côté, oh, il y a papy qui est là, puis le jeu est en train de se faire.
Enfin, exactement. Voilà.
Et, oh, c'est ce genre de petites difficultés là.
C'est un peu ce que tu faisais toi aussi en senior, de toute façon.
Tout à fait.
Donc senior, les adultes, hein, on rappelle.
Tout à fait. J'étais un cœur bohème. Je te rappelle, j'étais un doux rêveur, ouais, et dès que je voyais un papillon qui passait, je fais.
Et pendant ce temps-là, les liés.
Ouais, mais j'avais confiance à mon gardien.
Ouais, super.
Ouais, ah ben oui. Bah, tu vois, tu t'es décrédibilisé toi-même. Bon. Donc voilà, ça c'est une première difficulté.
Ouais.
Donc que tu rencontres toi à l'intérieur de ton club. Ça, je pense que c'est général un peu à plein de.
C'est général.
À plein de sports. Heureusement, malheureusement. Enfin, je pense que c'est dans la vie courante d'un bénévole. Mais après, non, moi, là où je veux en arriver, je pense que c'est un petit peu spécifique au sport et tu l'as touché du doigt. C'est que le foot, c'est perçu comme un ascenseur social. Tu l'as dit tout à l'heure. Forcément, alors je suis désolé, c'est bizarre que toi, tu m'aies dit Léo Messi, Kylian Mbappé. Ça m'a un peu surpris. Moi, j'ai envie de te dire... Les parents veulent que leurs enfants soient Alexis Sanchez et Ruslan Malinovski ou Mbolo ou Ben Yedder. Voilà,
là, tu vois, je football. Non, mais c'est bien de parler football.
Voilà, mais je me fais, tu vois, je tends une main vers toi, Sébastien.
C'est très bien.
Mais voilà, je suis un peu surpris que tu n'aies pas dit ça. Après, tu peux changer, moi, il n'y a pas de problème, hein, mec. Hein, mais après, c'est toi et ta conscience. Hein.
Alors, je ne changerai pas tout simplement parce que pour les mamans qui ne sont pas forcément des grandes supportrices de foot mais qui emmènent volontiers leurs enfants, quoi qu'il y en a des, commencez à en avoir quand même des mamans qui suivent le foot. Mais aujourd'hui, les joueurs que je t'ai cités, c'est les plus emblématiques du foot.
Ah oui, non,
si je te dis un Gerd Müller, il n'y en a pas beaucoup qui vont savoir qui était ce monsieur ou même de quelle nationalité.
Non, mais Johan, si tu veux laisser certains parents dans l'inculture, c'est ton problème.
Ah, hein. Non, non, non,
tu
non,
fais
non.
Ce que tu veux avec tes parents dans tes réunions, si tu leur parles de Mbappé, mais si moi je leur dis écoutez vos fonds de trafant, il vient avec le maillot de l'OM.
Alors écoute, si ça peut te rassurer, au sein du club, on se fait une sortie une fois par an avec une demande de petite aide, ou on fait une sortie au Vélodrome avec un maximum de licenciés du club.
Très
on
bien.
Va au Vélodrome, on va pas à Louis II parce qu'il y a pas assez d'ambiance.
Alors, pourtant, il y aurait de la place. Hein.
Mais pourtant, il y aurait de la place.
Mais exactement. C'est dommage parce qu'au moins vous pourriez faire une sortie foot, quoi. cadeau.
Au jour où nous parlons. L'OM est devant Monaco.
Tu sens la respiration sur la nuque.
Oui, oui, je sais. Mais tu vas jouer des matchs de Coupe d'Europe. Enfin, on n'est pas là pour.
Oui, parce que vous non. Ah oui, pardon. Vous êtes le seul club français.
On n'a pas, pas bien réfléchi.
Il y avait trop de bruit.
Donc,
il y avait trop de bruit au stade.
Ce que je voulais dire par là, c'est voilà, le foot, je reviens, je recentre, c'est perçu comme un ascenseur social, qui veulent être des Sanchez, des Malinowski, enfin, bref, peu importe, ils veulent être des joueurs professionnels, et du coup, il y a souvent même des pères frustrés de la fameuse blessure du ligament qui leur aurait fait carrière s'il n'avait pas eu ça, et qui redéploie toute sa frustration sur son gamin. Donc, ça, c'est une problématique, si je ne m'abuse, encore que dans le 0-4, c'est un peu plus rare. Mais je pense que si on descend dans des départements comme les Bouches-du-Rhône, pour nous, ou le Var, ça sera beaucoup plus présent.
Peut-être plus présent, mais pour être parti plusieurs fois dans ces départements, pour faire connaître autre chose à mes enfants, c'est pas forcément l'anarchie non plus. Il y en a un peu plus, mais ça va avec le nombre d'habitants aussi. Hein. Mmh. Tu auras certainement plus de problèmes dans une ville où tu as 3000 habitants que dans une où tu en as 10. Hein. Je pense que ça va par rapport avec la...
Ah oui, c'est...
Avec le nombre.
Comparer, voilà, c'est ça.
Alors après, là où je voulais t'amener, moi, sur une question, c'est sur le rôle d'éducateur et de la violence qu'on peut avoir. Donc nous, si on veut essayer de faire comprendre un peu les choses aux personnes qui nous écoutent, c'est on fait une sorte de filtre entre d'émotions pour les enfants qui sont sur le terrain. C'est-à-dire entre ce qu'ils peuvent retranscrire de l'extérieur, mais ce qu'ils peuvent retranscrire aussi de l'adversité. Notamment quand ils rencontrent des équipes qui n'ont pas toute la même philosophie que tu peux avoir, où on peut rencontrer de l'agressivité d'autres éducateurs.
C'est compliqué, ça.
Voilà. Donc ça, comment tu appréhendes
Écoute,
est-ce que tu as été confronté à ça déjà?
Je l'ai été, on ne citera pas de club. On est sur du foot éducatif. Généralement, l'éducateur, c'est à l'âge où les enfants commencent le football, donc on va dire vers les 6 ans, hein, t'es un peu son papa, en fait. Ou sa maman, si tu es éducatrice.
Complètement. Et
tu es le premier repère hors cercle familial. Je ne compte pas le côté scolaire. Hein. Mais tu vas être son seul repère. Parce que sur le terrain, il n'y a que toi. C'est toi qui lui apprends à vivre le football et à apprendre à faire du football. Donc pour moi, tu es un exemple. Et je pense, mais ça, ce n'est que mon intime conviction, que ton équipe, tes enfants, reflètent tout simplement qui tu es. Donc moi, je vais te dire tout simplement, ça s'est passé une fois, on jouait contre un club, je ne vais pas dire adverse, parce qu'il n'y a même pas d'adversité, tu vois, pour moi, à cet âge-là. Un club voisin, j'ai un gamin qui fait une frappe et le gardien adverse se prend le ballon plein de poire. On est froid, hein, dans le 0-4, l'hiver, il fait, surtout à Dauphin, hein, moins 12 hier matin, il fait froid, donc ça claque. Donc naturellement je rentre parce que même si c'est pas mon petit, ça reste un petit parce que le petit il pleure, il a mal.
C'est le gardien adverse.
Le gardien adverse.
Ouais.
Tu lui fais le petit protocole, est-ce que tu vois mon doigt, si t'as pas la tête qui tourne, voir comment ça va. Et puis là tu te prends comme réflexion, tu gagnes du temps parce que tu gagnes 1-0, donc l'éducateur adverse,
ouais.
Son éducateur, son gamin te dit ça, alors que lui donc du coup quand t'analyses ça, tu te dis ben il attend que la victoire, il pense même pas à la santé de son petit. Donc je lui ai dit tu sais quoi, si c'est que ça qui t'intéresse, j'ai embarqué mes petits et j'ai dit la victoire je te la donne.
Ouais.
Voilà comment j'appréhende la chose. Parce qu'il faut pas, même si c'est pas tes gamins, commencer à les frustrer à cet âge-là. Et des exemples comme ça j'en ai à l'appel. Malgré tout j'en ai à l'appel. C'est malheureux de le dire, hein, mais et c'est là où tu vois où c'est aussi un problème que tu vas rencontrer. C'est à quel moment tu les mets obligatoires les formations du coup? Parce que si tu les mets obligatoires, peut-être que tu n'as plus trop ce genre de comportement. Je dis bien peut-être, parce qu'après on ne change pas un homme. C'est facile d'éduquer un enfant, c'est plus difficile de rééduquer quelqu'un qui a un certain âge.
Sachant qu'il faut composer aussi, tu l'as dit tout à l'heure, avec la difficulté de trouver des bénévoles.
Et voilà, et c'est là où j'allais en venir.
Il faut jongler avec ça.
L'herbe sous le pied, est-ce que ce n'est pas ça aussi qui va faire que déjà que c'est compliqué d'en trouver, bah, tu n'en trouveras plus du tout?
C'est ça. Comme pour les arbitres, d'ailleurs, c'est un peu la même idée aussi.
Exactement. Mais voilà. Donc, est-ce que ton rôle d'éducateur, il commence pas là aussi? À penser à avoir une certaine bienveillance envers les enfants, mais quand je dis les enfants, c'est au terme général, c'est pas forcément les tiens. C'est ceux qui sont en face, parce qu'eux aussi, ils sont là pour jouer au foot, se faire plaisir,
ouais, puis s'amuser,
comme tes petits. Et surtout, demander à un enfant qui fait du sport, n'importe quel qu'il soit, mais là on va parler football, il fait les plateaux généralement le samedi, demandez-lui le dimanche quelle équipe il a rencontré, combien de buts il a marqué, combien de matchs il a gagné, combien il a perdu. Généralement, il ne sera jamais te le dire. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il aura joué au football. Alors si on peut juste qu'il y ait du plaisir en juste jouant au football, je pense que c'est l'essentiel.
C'est ouais. Un jeu, faut pas l'oublier.
C'est quelque chose aussi que tu avais rencontré aussi. Toi, quand tu avais entraîné Seb, c'était des catégories un petit peu plus au-dessus.
Ouais, un peu plus grand. Donc déjà, on commence à avoir des adolescents, presque des pré-adultes. J'ai fait un peu des seniors, mais en futsal, donc c'est un peu différent. Mais oui, non, c'est des cas, malheureusement, qui font que tu te retrouves un peu impuissant. Alors nous, c'était un peu différent, parce que alors, sur du foot éducatif, on ne considère pas encore trop les résultats, parce que
ils ne sont pas considérés.
Voilà. Donc du coup, partir des catégories au-dessus, voilà, c'est de suite, on se réfère à ce qui se passe à la télé, les machins, donc le moindre truc, ça devient un drame sur un contact un peu appuyé, parce que le dirigeant en face a eu un discours, comme tu as pu nous dire en off tout à l'heure, qui en parlait en off. Ouais.
Alors, j'ai pas...
Ou avec des mots inappropriés, ça peut être très vite déraper.
Il n'y a pas de problème. Mais...
Surtout donc, sur des catégories où les minots sont vite à cran, on va dire, sur certaines choses, puisqu'ils sont préadolescents, ils traversent différentes choses. Quoi. Et donc, du coup, c'est là que c'est primordial d'avoir un discours irréprochable au niveau de ces minots. Quoi.
Je pense qu'après, moi, sur les catégories de jeunes, la première chose, je pense à gérer, après, je ne sais pas ce que tu en penses, Yoann, c'est la gestion des émotions. Moi, je travaille beaucoup là-dessus, sur la gestion des émotions. La frustration de la défaite. La frustration, c'est un sport co. Donc, le gamin peut se considérer comme l'élément du groupe. Et en face de moi ou à côté de moi, je n'ai pas forcément un enfant qui a un super niveau. Ou on a perdu, c'est sa faute. Moi, je trouve que jusqu'à... Alors, pour l'instant, l'expérience m'a fait que j'ai connu que je suis 14-15 ans. Mais c'est beaucoup de gestion d'émotions. Que tu vas voir des gamins agir d'une certaine façon aux entraînements et que tu vas voir agir autrement sur des matchs. Voilà. Moi, c'est vraiment la gestion d'émotions. Et puis, face à... Alors, je sais que tu n'aimes pas ce terme, mais face à l'adversité, face à une rencontre contre une autre équipe, cette gestion de comment j'appréhende l'agressivité en face qui est inculquée... à bonne dose. Alors, c'est vrai que j'aime pas mettre l'agressivité, l'envie plus importante, mais quand l'envie se transforme en agressivité. Donc,
écoute, le mot adversité, c'est pas que je l'aime pas. C'est que quand on est encore une fois, c'est juste mon intime conviction. Quand on est sur de jeunes enfants, on parle d'enfants qui ont, on va dire 13 ans, c'est les plus grands. Mais quand tu commences sur les 6, 7, 8, 9, même 10, 11, c'est des enfants. Apprends déjà le vivre ensemble. Dans la gestion des émotions, ça en fait partie. Apprends que t'es pas le centre du monde. C'est le rôle de l'éducateur aussi, parce qu'on va avoir des enfants qui sont... Et c'est normal, parce que ce sont des enfants, c'est mon ballon, qui vont être très individualistes. Donc il va falloir leur apprendre à partager ce ballon avec les autres. Donc ouais, on va travailler sur ces rôles-là, comme tu disais, les gestions des émotions, le vivre ensemble, le respect. Parce que oui. Je pense que je reviens encore, mais sans respect, on n'arrive à rien. Voilà, l'essentiel.
Éducateur à valeur d'exemple, à valeur, c'est lui qui va un peu mettre en place le tempo de vie de son groupe. Et donc là, tu as vraiment une casquette, toi, dans ton club, où là maintenant, Alors attention, hein, je le mets entre guillemets parce que je ne veux pas que tu prennes la grosse tête, mais directeur sportif des jeunes, directeur jeunesse sportive, oui. Mais en mettant comme ça, en le nommant comme ça. Et donc là, du coup, tu nous as dit que tu avais un volet un petit peu plus administratif puisque tu es au bureau de ce club-là. Mmh. Oui.
Petite question par rapport à ça. Donc gestion donc de tout le foot éducatif. Que niveau administratif ou aussi est-ce que tu chapeautes justement les autres catégories pour une certaine philosophie d'entraînement, tout ça ?
Alors, non, je vais t'expliquer pourquoi, parce que on est une petite structure, il y a des gros clubs aujourd'hui qui ont la chance d'avoir des salariés, donc qui ne font que ça, et où les éducateurs vont arriver le matin et vont prendre dans leur bannette l'entraînement qui leur a été chapeauté par la personne qui est au-dessus. Moi, je ne veux pas du tout avoir cette casquette-là. À la base, je suis rentré au bureau pour soulager mon président parce que je voyais qu'il faisait énormément de choses et que ça devenait une contrainte, réellement. Je le voyais essouffler, aller à droite, à gauche. C'est difficilement pensable quand tu es bénévole de te dire que ça va devenir une contrainte. Donc à la base, je me suis proposé d'avoir ce rôle-là, mais pour les licences, pour... Par contre, ce que je demande, moi, quand on fait les réunions de club, c'est que chaque éducateur référent, si j'ai envie de dire, soit responsable de sa catégorie. C'est-à-dire qu'il joue, qu'il gère son groupe WhatsApp, parce qu'aujourd'hui, on gère ça avec cet outil-là au niveau communication avec les parents. C'est lui qui va en être le responsable. C'est lui qui va prévenir, qui va convoquer les gamins, qui va faire ces parties-là. C'est lui qui va mettre les feuilles administratives que tu donnes en début de plateau, parce que, ben mine de rien, il faut toucher un peu à tout, je pense, pour savoir qu'est-ce que c'est... Ce que ça implique, le rôle que ça demande. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance des U11 de pas du tout les gérer parce que la personne qui s'en occupe est une personne qui a travaillé avec moi une fois sur deux, une année sur deux. J'ai eu son petit pour commencer, donc il est en totale autonomie et il sait ce que j'attends. Et ce que j'attends, c'est pas moi qui le veux, c'est pour un bon déroulement dans la vie du club. Les U13, les petites 13 ans, j'ai la vue sur ce qu'ils font, mais ils sont autonomes aussi. Il n'y a que les U7 cette année parce qu'on a pris un jeune qui est en alternance là, pour en faire son métier.
BPJEPS.
BPJEPS. J'avais pas le nom.
Il le fait où ? Tu le sais où ?
J'en ai aucune idée. Là, oui, je suis un peu plus présent parce que bon, il a 20 ans, il commence. Donc, mais dans la finalité, je veux qu'il gère son groupe U7.
Et qu'il ait ses idées, de toute façon.
Et qu'il ait ses idées. Je suis allé le voir déjà sur un plateau, je vois un peu où il veut amener, où il veut aller. C'est très bien. Moi, je veux que les gens soient autonomes. Donc, j'apporte pas ma... Parce qu'au final, on a tous commencé comme moi. Je ne sais pas comment ça s'est passé, toi, Raph, mais je pense que c'est comme beaucoup de bénévoles. On a tous été le papa d'un petit qui était assis sur le bord du terrain, qui était là régulièrement. En toute humilité, je pense qu'on a juste tous à apporter notre patte à l'édifice et un truc en plus, mais pas à l'imposer. Donc j'ai juste ce rôle-là de gestion administrative, les licences qui demandent beaucoup de boulot en début de saison. Et après le reste, quand je te dis je fais pas grand-chose, oui, parce qu'il y a plein de choses que tu fais quand tu es responsable. Et quand tu as un terrain qui n'est pas praticable, on te demande de prendre chaque centimètre carré de la pelouse pour voir s'il était réellement praticable quand ça passe en commission. Ça demande du temps à la maison, ça demande parce que tu demandes tel ou tel papier, telle ou telle photo, que le district, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc oui, ça demande beaucoup de temps, mais c'était plus pour soulager les gens qui faisaient que ça, parce qu'il ne faut surtout pas, et je le répète, en tant que bénévole, ça devient une contrainte.
Et donc là, sur le côté, on va dire, bénévole, dirigeant, hein, puisque tu es dans le bureau. Pour moi, le dirigeant, c'est vraiment ça. C'est le mec qui est dans le bureau, qui est un peu l'homme à tout faire du club, mais il y a plusieurs mains à tout faire dans un club. Tout le monde met la patte à tout. Qu'est-ce que tu penses ? On en a un peu parlé tout à l'heure, mais quel est le rôle de nos clubs ? Parce que Oraison, Dauphin, sensiblement le même nombre de licenciés. Bon, ce qui est peut-être pas normal d'ailleurs, sans te faire offense d'ailleurs, mais je pense pour un bassin de population qui a presque 5000 fois plus d'habitants, c'est peut-être pas normal avec un bassin bien rempli autour. Enfin, peu importe, ça sera peut-être l'occasion, et je lance une invitation au président d'Oraison Sport aussi et à la SA commune d'ailleurs.
Pourquoi les parents qui habitent sur une commune emmènent leurs enfants sur d'autres clubs ?
Après, il y a la proposition de notre Je crois qu'à Oraison, il y a une trentaine d'associations sportives. Déjà, ça fait énorme, c'est énorme.
C'est énorme.
Tu as plus de possibilités. Ouais.
Voilà, donc c'est déjà peut-être un frein en soi. Mais la question n'était pas là, c'est qu'est-ce que tu penses que... comment doit se situer nos clubs par rapport à une hiérarchie fédérale?
Ouh la vache. Allez, à demain.
Allez, on va partir sur une belle dissertation.
T'as deux heures, non, tu vois.
Non, parce que tout à l'heure, on en parlait. Le souci, là où je t'explique le fruit de ma réflexion et de mon interrogation, c'est que nos clubs, je pense, se sont rendus pauvres parce qu'elles ont voulu, à un moment donné, garder trop près d'eux leurs meilleurs éléments. Est-ce que quelle est, toi, ta perception des choses? Est-ce que tu penses que si un élément a la possibilité d'évoluer au-dessus, alors nous, pour ne pas les citer, à un moment donné, bon, maintenant, ils sont au même niveau que nous, mais quand il y avait Gap ou Manosque qui étaient au-dessus, moi, je vois de ma génération, j'ai plein de copains qui sont partis jouer à Gap, à Manosque, parce que, voilà...
Quand une équipe de jeunes qui partait en DHR, ils essayaient de gratter un peu des minots. Je parle en moins de 13 pour nos époques, moins de 15, moins de 17, moins de 20, quoi.
Oui, ou alors, d'ailleurs, ben voilà... quand tu vas faire par exemple un tournoi hors département, ton gamin se fait voir et tu as un dirigeant qui est devant et tu dis bah, tu nous as parlé de Burel qui est une super structure éducative et formatrice dans les Bouches-du-Rhône et même au niveau régional.
Et pas qu'elle, hein, il y en a plein.
Oui, voilà, qui sont en partenariat avec des clubs pro proches d'eux, Lyon, je crois que c'est Burel, c'est avec Lyon, je crois qu'ils sont. Et l'OM, je crois qu'ils avaient voulu y aller, mais ils sont pas.
Je ne saurais pas te dire.
Mais voilà, quoi qu'il en soit, peu importe. Mais comment toi tu perçois ça?
C'est compliqué parce que, alors déjà, je pense pas avoir l'expérience nécessaire pour te dire si c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, parce que ça fait pas si longtemps que ça que je suis là dedans. J'ai déjà des éducateurs qui font partie de grosses structures qui sont venus voir mes parents pour me choper, entre guillemets, parce que c'est le terme, des petits. Moi, je suis transparent. On est toujours dans l'épanouissement du petit, de l'enfant. Je pense que dans le football éducatif, du moment qu'il s'épanouit avec ses copains, on garde. Par contre, il arrive après le football éducatif, parce qu'en fait, le football éducatif, pour expliquer aux gens, on va commencer donc en catégorie U7 avec des enfants qui vont jouer avec un gardien plus trois copains contre une équipe en face qui a le même nombre de joueurs. Après, quand on passe en 8-9, on change, le terrain grandit un petit peu plus, on passe avec un gardien et quatre copains en joueurs de champ. Après, quand on passe en U10-11, on est toujours en football éducatif, on passe en moitié de terrain, donc de foot à 11. Donc les petites cages que vous voyez qui sont sur le côté de chaque terrain de foot. Où là, les dimensions sont de terrain, de cages, on passe ça sur du 8 contre 8, sont plus grandes. Et quand on a fini le football éducatif, et encore que ça risquerait de changer d'ici l'année prochaine, on passe sur le fameux foot à 11, comme tout le monde, comme à la télé, sur un grand terrain. Et je pense que c'est quand on arrive sur du foot à 11, peut-être avant, on va peut-être même les U13 dedans, qu'on va peut-être pouvoir commencer à lâcher les gamins. Je te répète, c'est que ma conviction personnelle.
C'est intéressant.
Parce que là, déjà, en U13, il me semble de mémoire que les CPS commencent.
Oui.
Donc, ouais. C'est là.
CPS, c'est les détections jouer avec les départements.
U12, je crois déjà, tu as un truc aussi, U12.
Oui.
Bon, c'est la même catégorie, U13, ça commence. Mais tu as un truc en U12 et un truc en U13, séparément.
Là déjà, si tu as un enfant, je pense, qui est convoqué régulièrement sur les CPS, c'est qu'il a un bon niveau. Si tu n'es pas bête en tant qu'éducateur, si tu vois que ton minot il est confronté régulièrement à des bons stages, à des bonnes prestations sur ses stages de CPS, bah oui, va orienter les parents sur des structures où le minot, peut-être qu'il va stagner, peut-être qu'il va progresser, parce que des enfants qui sont très bons en 8, ou 9, quand ils passent en moitié de terrain, ils vont peut-être s'éteindre parce qu'ils sont complètement perdus. Tu vas voir l'inverse aussi. Des petits qui n'étaient pas à l'aise sur des petits terrains qui vont exploser sur moitié de terrain parce qu'ils vont être beaucoup plus épanouis. Parce qu'il y a toujours cet épanouissement-là qui est là. Et tu remets le même problème quand tu passes à 11 sur un grand terrain. Donc je pense qu'à partir de là, oui, il faut lâcher. Il y a déjà des parents qui sont venus me voir en disant « Ah, il y a le monsieur là, il est venu me voir, ça vaut le coup. » J'ai dit « C'est vous qui voyez. Si vous voulez y aller, moi je vous dis c'est trop tôt. » Mais après, si vous avez envie d'essayer, essayez. Il y en a, hein. Ils ont voulu parce que je pense qu'il y a des parents qui ont encore ce qu'on disait tout à l'heure, Alexis Sanchez,
merci.
Ben Yedder, voilà. Pour faire la paix des ménages, qui ont ça en tête et qui malheureusement sont intimement persuadés. Et donc, ouais, qui font leur expérience. Ouais, et au final, et je le parle parce que je ne donnerai pas de nom, mais c'est au sein de ma famille, un petit qui était dans cette configuration-là, un petit dont je suis proche, et qui était bon, qui est parti sur une grosse structure parce que les parents voyaient déjà faire plus. Et aujourd'hui, le petit ne joue plus au foot.
C'est pas tout
d'un coup. Ouais. On l'a perdu.
Ouais, ça peut arriver aussi. Ouais.
Voilà. C'est, bah oui. c'est pas tout d'être parce bon. Que il faut. T'as un mental aussi à avoir et tout. Et puis, genre après, voilà, perdre. Un petit qui est fort au milieu de, alors j'exagère le truc, au milieu de faible, forcément tu l'imagines phénoménal, mais dès qu'il est, il commence à te noyer dans une structure où tous les minots ont ce niveau-là,
le même voire mieux,
voilà, ouais. Ça devient difficile.
En fait, là, moi ce que je perçois aussi dans notre département, malheureusement, c'est qu'il y a des clubs qui ont installé une politique sportive en disant on va monter des bonnes équipes pour essayer de monter dans des niveaux plus hauts et essayer de créer une élite départementale. Et ça a appauvri certains clubs aux alentours parce qu'ils ont pris tous les meilleurs joueurs des clubs aux alentours. Et malgré tout, ils ont peut-être réussi à monter d'un cran, mais ils sont vite redescendus parce que, comme tu l'as bien dit justement tout à l'heure, le niveau dans notre département est trop faible. Et quand ils se confrontent à des départements comme les Bouches-du-Rhône, le Var, le 06... Bon, le 04 et le 05 sont ensemble.
Déjà. Donc,
ça veut dire quelque chose. On voit de suite la grosse différence là-dessus. Et qui dit appauvrissement de ces petits clubs-là, tout à l'heure tu l'as dit, bah, une licence reste malgré tout. Et je pense que c'est, on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, c'est d'essayer d'attirer aussi pas mal de jeunes parce que c'est ce qui fait vivre le club quelque part. Une licence que vous, parents, si vous m'entendez, vous allez payer, bah, ça va faire vivre un club parce que les subventions communales vont aider peut-être à payer juste les droits d'inscription qui ne sont pas forcément donnés. Pour vous donner juste un exemple, en senior, je l'ai dit tout à l'heure parce que c'est assez significatif pour tout le monde, parce que c'est assez populaire, la Coupe de France. À mon époque, quand j'étais dirigeant, il y a 10-15 ans, je ne connais pas le prix maintenant, mais c'était 400 euros l'inscription en Coupe de France. Peut-être pour faire un tour, c'est-à-dire qu'on va payer un match 400 euros, on va jouer contre l'équipe du coin, contre qui on allait jouer en championnat, pour le même prix, parce que c'est à peu près le même prix, pour un championnat.
Toute équipe engagée, tu donnes des sous.
Ouais, exactement.
Faut savoir que tu donnes des sous, on est sur du... Et tu prends des amendes.
Voilà. Et sachez aussi que quand on ne se présente pas à un plateau, parce qu'il y a l'anniversaire de mémé, où il faut que j'aille ramasser les champignons le dimanche, parce que moi, c'est des exemples que j'ai eu en tant que coach senior. J'ai un entretien d'embauche voilà. Un dimanche. Moi, j'ai eu ça un jour, s'il te plaît, à la Brianne.
Ma grand-mère est décédée deux fois, non
parce que oui, ça, oui, aussi, oui. Ça fait deux fois qu'elle est morte, ta grand-mère. Ah, mais elle a beaucoup souffert.
Elle a beaucoup souffert. Voilà.
Et donc, du coup, sachez qu'une non-présentation, ne serait-ce que sur des catégories de jeunes, c'est 20 euros, tu me l'as dit tout à l'heure.
Écoute, 20 euros si tu préviens. Si tu préviens en disant
ah, oui.
Je ne pourrai pas être présent parce que je n'ai pas la totalité de mon effectif. Si les parents, parce qu'on va parler de foot éducatif, hein, je suis là-dedans. Si les parents ne te préviennent pas et que tu arrives sans aucune équipe, vu que c'est de l'absence non prévenue, tu prends 65.
Ah, ce oui. Qui est abusé pour une catégorie chez les minots où voilà, genre, tu parles plein d'imprévus. Et...
Je suis d'accord avec toi, c'est abusé. Mais en attendant, les petites structures comme les nôtres, elles le dépensent cet argent. Et je pense, et alors j'espère et j'aimerais me tromper, mais j'ai presque l'impression que dans quelques années, les petits clubs comme le nôtre vont disparaître si on ne prend pas un autre chemin. Si on ne part pas sur des idées de groupement, sur des idées de fusion, mais ça c'est toujours pareil. Si tu n'as pas la mentalité qui suit, si tu n'as pas le groupe de bénévoles nécessaire pour monter le projet, c'est...
C'est les déplacements, c'est plein de choses. Hein.
C'est les déplacements, c'est énormément de contraintes, mais toutes ces amendes que les petits clubs payent, des fois, parce qu'il faut le faire, hein. Les seniors, quand tu prends un carton, j'ai plus le tarif en tête, mais je crois que c'est 35 euros.
Ouais, 35 euros.
T'as les frais de dossier derrière, un rouge, c'est un peu plus. Ça coûte de l'argent, pas les seniors, mais ça coûte de l'argent au club d'engager une équipe.
Ah,
donc,
alors, juste pour moi vous donner un ordre d'idée, parce que c'est prescrit maintenant, ça fait 15 ans que j'ai quitté le club de la Brianne. Sachez que pour une équipe senior, j'avais une subvention communale de 1 000 euros. Donc 1000 euros pour une équipe, donc sachant qu'il faut payer les fameux droits d'inscription dont j'ai parlé tout à l'heure. Les licences, on les paye et nous, on fait un léger bénéfice sur ces, enfin, on fait un bénéfice sur ces licences-là, mais il faut gérer en même temps dans le prix de la licence le matos qu'on va acheter, c'est-à-dire les coupelles, les ballons, les maillots, les shorts, les chaussettes.
Le carton de licence de la Ligue, parce qu'il y a une partie qui revient à la Ligue aussi, il n'y a pas tout pour le club.
Exactement. Donc voilà, sachez que ce sont des bénévoles d'ailleurs qui travaillaient. Moi, je faisais autant de subventions que ce que je faisais en termes de chiffres. On vendait des calendriers et je faisais du porte-à-porte. Et
tu veux juste te déshabiller, t'imagines, pour ces calendriers.
Est-ce que ça avait autant de pouvoir que le calendrier des pompiers ou des dieux du stade?
Pas trop, parce que c'était Rafi en première page.
Alors, non, c'est quand tu ouvrais la page qu'il y avait le gardien qui était derrière à poil.
En double page.
Il dit, mais pourquoi le gardien veut toujours être à poil? J'ai fait, ouais, je sais pas, c'est
un trip. Il a pas compris le concept. Quoi.
Cherchez pas à comprendre.
Non, mais plus sérieusement, parce que c'est comme... J'ose, j'espère me tromper, mais j'ai du mal à voir un avenir pour les petits clubs comme les nôtres avec des petites trésoreries, survivre avec des amendes qui ne font qu'augmenter, des cartons de licence qui ne font qu'augmenter, des amendes non justifiées, allez je me mouille, parce que franchement, mettre 20 euros à des petites 6 ans parce qu'ils n'ont pas pu venir au football, parce que les dates ont été déprogrammées, que tu as été mis au courant le mercredi pour le samedi, et qu'en plus c'est pas le samedi, c'est le dimanche.
Et surtout que ces 20 balles là, ils partent au district, ils partent pas. À la limite, s'ils partaient dans les autres clubs qui sont organisés pour le samedi, que tu dis bon, ils ont des dommages à cause de ça.
Ouais, encore que.
Oui, parce que après, si tu t'engages, il faut y aller. Mais des fois, je me dis, putain, on est sur du. Rébarbatif sur certaines équipes, que tu le sais que ça se passe, oui, vas-y, sanctionne. Mais des équipes qui sont régulièrement là. Et puis, moi, j'en suis persuadé, hein, tu vas perdre des bénévoles. Moi, je vois mon comme j'aime bien l'appeler, mon bras droit, Sven, quand il a vu, quand j'ai reçu un plateau à la maison qui pleuvait en disant bon, c'est bon, là, le terrain n'est pas praticable, les enfants vont se faire mal. C'est même pas par fainéantise, j'avais déjà installé 4 terrains, les enfants vont se faire mal. Et qu'il a vu derrière qu'il fallait contacter l'astreinte téléphonique pour les trucs de quand tu peux pas recevoir parce que le terrain est impraticable. Qu'on te demande la photo, mais pas de la seule flaque d'eau, mais de la totalité du terrain pour voir que ça passe en commission derrière. Et qu'il a compris qu'en fait, on s'occupait que d'enfants de 9 ans. Il te dit, mais moi, ton poste, je le veux pas. Heureusement qu'il y en a qui le font. Mais tout ce qu'ils te demandent derrière, c'est des enfants. Alors peut-être que ça serait intéressant d'avoir quelqu'un d'un district ou de la 3F qui de faire un débat là-dessus. Et peut-être que pour eux, ça a une importance ou une signification que nous, en tant que bénévoles, dirigeants, on n'a pas. Mais je me pose quand même pas mal de questions.
Alors, de toute façon, je l'avais dit, moi, ce podcast, ça se tourne sur tous les sports, forcément. Mais c'est vrai que le champ de connaissances de personnes que j'ai autour de moi sont plus tournés vers le foot, effectivement. Mais effectivement, j'aurais aimé inviter une institution type district, enfin, représentant de district et communal aussi, pour qu'on comprenne un petit peu ces rouages-là. Déjà, on arrive quasiment à la fin de ce podcast. J'aimerais que tu nous partages dans ta vie de bénévole. Si je te donne une baguette magique. Avec cette baguette magique, tu as le pouvoir de revivre un moment d'éducateur sportif. Bénévole, c'est quoi ?
Y en a quelques-uns quand même. Hein.
Le premier qui devient spontané.
Le premier, comme tu l'as dit, on est un petit club. Il y a très peu de personnes qui savent nous situer sur une carte. Et j'aime bien confronter mes petits qui se débrouillent pas mal pas le vrai football, parce que c'est pas le bon terme, mais un football plus dur, de sortir faire des tournois hors département. Tu arrives, il y a des clubs qui font partie des clubs qui ont qui ont des objectifs, donc qui sélectionnent les enfants. Donc déjà, chose que nous on fait pas, on prend tout le monde. Ils arrivent pas, ils savent pas d'où tu arrives, ils savent pas d'où tu viens, ils connaissent même pas le club, et tu arrives à sortir premier de poule, voire ex aequo avec eux, et tu te dis, ben malgré tout, nous petit club de village, je pense qu'on arrive sans faire de sélection, en ayant la meilleure volonté du monde et avec un bon état d'esprit, je pense qu'on peut réussir à faire peut-être pas mieux, mais on a de quoi talonner des clubs qui sont bien structurés.
Ouais, c'est arriver à, avec le travail de bénévole que tu as eu.
Ouais. Et ça, je l'ai vécu.
D'arriver à structurer quelque chose.
Et j'aimerais le revivre encore plus souvent.
Ouais.
Ouais. Ça, c'est. Ouais.
C'est gratifiant.
C'est gratifiant.
Bon, en tout cas, c'était bien cool de te recevoir, Johan.
Ben, merci à toi.
Je te remercie beaucoup. Seb, une nouvelle fois, merci. Ton président est le bienvenu, Jérémy, c'est ça, que je ne dise pas de bêtises. Et ben vous savez, je ne vous le redis pas. Alors, les musiques que vous allez entendre, c'est le choix de Johan. Donc, vous connaîtrez assez rapidement ses sensibilités footballistiques. en tout cas, merci encore de votre écoute. Merci de votre assiduité. Vous savez où vous pouvez écouter ce podcast, je ne le répète plus. À bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao. You're stepping on my toes. Back up off me. Take your hands.